Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Belinda Busuma. Procès des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise. La haute cour militaire décrète le huis clos des audiences. Motif, c'est un dossier de haute sensibilité, explique un des avocats de la défense. La presse et les membres des familles des prévenus sont donc interdits d'y assister. Mois de mars, mois de la femme, le réseau des femmes des entreprises du Congo a organisé une activité dans ce sens hier à Kinshasa. Au menu notamment, les souffrances qu'endurent chaque jour les femmes du Grand Kivu. Une collecte des fonds en faveur des femmes vivant dans le Grand Kivu a marqué cette activité. Et puis, le président de la République enjoint plusieurs ministres d'engager une réflexion approfondie pour mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. C'était lors du dernier Conseil des ministres. L'état de lieu du secteur d'investissement et création d'entreprises, nous en parlons avec l'analyste économique Eddy Mouela, notre invité. À tous et à toutes, bonjour. Justice pour commencer. Au procès des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise, la haute cour militaire décrète le huis clos des audiences. La presse et les membres des familles des prévenus sont interdits d'y assister. Par son arrêt rendu immédiatement à l'entame de l'audience d'hier jeudi, la haute cour déclare irrecevable et fondée la requête de la défense relative à la sensibilité du dossier en instruction, interdisant ainsi d'en faire la publicité. Un des avocat de la défense pour les intérêts des prévenus, Dieu Gentil Alegumbia, général-major, commandant de la 34e région militaire, et Eddy Mukuna, commissaire divisionnaire adjoint de la police dans le Nord Kivu, explique la raison du huis clos alors que les infractions mises à charge des prévenus ont déjà fait l'objet de publicité. Maître Bokolombe Chicha explique au micro de Jeff Ngoy.
Justement, on a soutenu le huis clos parce que c'est un dossier, comme on l'a dit dans notre requête, c'est un dossier de haute sensibilité. N'oubliez pas justement que il y a des forces en présence qui sont au niveau de front, diffuser, propager certaines informations qui sont secrètes et qui relèvent de secrets militaires pourront impacter justement l'évolution des combats sur le terrain.
Qu'est-ce qui peut être considéré comme sensible ici?
Non, mais ce qui est sûr et vrai, que le dossier tel que nous l'avons compulsé conserve beaucoup de secrets militaires qu'on ne peut pas exposer à la place publique. À la décision de renvoi, ce sont les préventions retenues par le ministère public. Ce n'est pas l'autre son de cloche de la défense et nous avons à dire.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, tous les officiers sans fonction et soldats des FARDC sans unité et venus d'ailleurs et qui se retrouvent présentement dans la ville de Beni sont appelés à se faire identifier ce vendredi 21 mars 2025. Selon le maire de la ville de Beni, le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo, l'objectif principal de cette opération est de renforcer la sécurité dans la ville et permettre à la hiérarchie militaire de constituer une unité regroupant ses officiers et soldats pour une éventuelle réaffectation. Dans son communiqué rendu public mercredi, le maire de Beni a indiqué qu'un contrôle rigoureux sera effectué pour identifier les récalcitrants. Le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo explique dans cet extrait choisi par André Kitenge.
Sur instruction de la hiérarchie militaire, il est porté à la connaissance de tous les officiers sans fonction, ainsi que les éléments de FARDC sans unité, qui sont venus d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la ville de Beni, qu'une parade est organisée à leur attention ce vendredi 21 mars 2025 au stade du 15 octobre à 6 heures très précises. Motif. La hiérarchie veut constituer une unité qui va rassembler tous les officiers et éléments non encore affectés pour une éventuelle réaffectation jusqu'à nouvel ordre. Un contrôle systématique va se passer pour dénicher tous les officiers et éléments qui ne se sont pas fait identifier ou qui se sont absentés à la parade. Aucune absence ne sera tolérée.
Par ailleurs, tous les membres des groupes armés encore actifs dans le territoire de Béni sont appelés à adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, appel lancé mercredi par Omar Kavota, chef d'antenne du PDDRCS Béni. C'est au terme de sa rencontre avec le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule. Les deux personnalités ont également échangé sur l'état d'avancement des piliers du PDDRCS dans le Grand Nord de la province et les perspectives pour l'année 2025. Omar Kavota est joint par André Kitenge.
Notre appel est que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les groupes armés, ils doivent comprendre que c'est l'heure de faire la paix, c'est l'heure de contribuer à la sécurité, qu'ils se rendent au PDDRCS pour leur désarmement et pour leur démobilisation. S'ils sont des groupes dits Wazalendo et qui veulent servir la patrie à travers leur soutien au FRDC, qu'ils passent par les DD, le désarmement et la démobilisation, ils pourront être reçus s'ils sont éligibles à la RAD ou ils peuvent passer par le recrutement au sein des FRDC. Et là, ils vont le faire en tant que force régulière de la République. Et nous pensons que c'est le travail que nous continuerons. Nous allons poursuivre la sensibilisation des membres des groupes armés, des membres de la communauté, pour que ceux qui vont accepter la réinsertion, la réintégration après le désarmement, nous puissions le prendre en charge. Et ceux qui vont choisir la RAD ou le FRDC, qu'ils le fassent, mais qu'ils sachent que c'est un processus individuel et on ne peut pas faire une mutation des groupes armés vers le FRDC si on n'a pas été préalablement désarmé et démobilisé.
Dans l'actualité aussi, le réseau des femmes des entreprises du Congo a célébré hier 20 mars à Kinshasa le mois des droits des femmes. Les souffrances qu'endurent chaque jour les femmes du Grand Kivu étaient dans tous les esprits. Dans son mot de bienvenue, Madame Anto Odia a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les femmes tuées au cours de cette guerre d'agression avant de s'épancher sur les conditions de vie de la femme qui, selon elle, restent déplorables. Compte rendu de Vanessa Kongolo.
Cette célébration qui a réuni les femmes et les hommes des régies financières, des entreprises commerciales, des établissements publics et des services publics de l'État a connu plusieurs grands moments, dont la projection d'un documentaire sur les témoignages de femmes victimes de violences sexuelles pendant la guerre à l'est de la RDC, ainsi que la collecte de fonds pour aider les femmes qui vivent dans le Grand Kivu. Cette somme récoltée a été remise directement à la représentante du ministre du Genre, Famille et Enfants, qui n'a pas gardé sa langue en poche. Adachati Tuluka a loué les avancées réalisées par les femmes, tout en mettant un accent sur les défis à relever. Pour sa part, Madame Rachel Akachi, présidente des REFEC, est revenue sur le grand vœu de la structure qu'elle dirige.
Le REFEC voudrait que le monde entier reconnaisse que la femme de l'entreprise est une femme qui peut faire en sorte que la RDC quitte la queue pour aller vers la tête. Avec la femme de l'entreprise, nous pouvons changer les donnes dans notre pays.
C'est dans une ambiance festive que cette célébration a pris fin en début d'après-midi.
Toujours dans le cadre du mois de la femme, l'ONG Leadership des femmes des médias clôture ce vendredi au lycée Matongé à Kinshasa sa tournée auprès des élèves filles dans les écoles de la capitale. Cette ronde a pour thème investir dans le leadership des jeunes filles. Nancy Atambo a assisté mercredi à l'étape de l'école Mukengeli de la commune de Lemba. Elle nous en parle dans ce reportage.
Cette étape de Lemba a réuni plus de 50 élèves de la 6e année des humanités. Pour Grace Chako, coordonnatrice de cette ONG, cette ronde dans les écoles a pour but de doter les jeunes filles d'outils nécessaires pour devenir des leaders confirmés. Elle explique.
Tout le mois de mars, nous avons l'habitude de passer dans les écoles, parler avec les jeunes filles autour du leadership féminin, parce que nous considérons que le leadership doit être enseigné déjà à la jeune fille pour qu'elle puisse évoluer dans ce sens-là. Nous sensibilisons aussi sur les violences basées sur le genre, le mariage précoce et forcé.
Plusieurs filles présentes disent avoir appris des réalités qu'elles ignoraient.
Oui, les faits que vous avez appris à nous. Maintenant, nous savons à quel point c'est très important les études, à quel point il est important de s'enrichir mentalement.
C'est une grande joie de rencontrer nos grandes sœurs, maman, tantes, qui étaient quelques années avant élèves comme nous, qui sont devenues des avocates, des journalistes. Et en tant que jeunes filles, nous ont dit de ne pas chercher le mariage à notre âge, de nous concentrer sur nos études et de ne pas nous laisser faire.
L'ONG projet leadership de la femme de médias encourage les élèves à s'épanouir pleinement dans les études et à contribuer de manière significative au développement de la société. Notez que la violence que vivent les femmes avec la guerre dans l'est du pays a aussi été évoquée.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Banalia. Nous sommes dans la Grande Orientale. Ici, la communauté Popoy et la société minière Libella s'engagent à travailler en harmonie pendant toute la durée du contrat qui les lie. Les deux parties l'ont fait savoir hier à Kisangani lors de la signature du cahier des charges au terme de l'atelier y afférent. La signature de ce document a eu lieu devant le ministre provincial des Mines, Thomas César Messemo, alors que la communauté Popoy attend le respect total des engagements de son partenaire. La société minière espère bénéficier d'un climat apaisé de la part de la population du secteur Popoy afin de lui permettre de réaliser ses objectifs. C'est un reportage de Jacques Moukonkolé.
Au total, 15 projets sont retenus dans ce cahier de charges, notamment la construction des écoles, des bureaux administratifs de groupement et du secteur, des centres de santé ainsi que la réhabilitation de plus de 150 km de route. Coût global, près $1,200,000 américains pour une durée de 5 ans. Le ministre provincial des Mines, Thomas César Messemo Wamessemo, exhorte les deux parties au respect strict de ce cahier de charges sous peine des sanctions.
Nous devons être conscients des conséquences en cas de Nord. Désormais, tous les braconniers miniers qui viennent s'aventurer dans notre province n'auront plus droit à une promenade de santé comme ils le faisaient.
Le responsable de la société minière Libella dit être conscient de ses engagements. Boni Machaouri promet de les honorer tant que le climat sera apaisé.
Nous avons une obligation sociétale, c'est tout chapelet de projets que nous sommes tenus à réaliser et nous pensons que nous serons à la hauteur parce que nous sommes conséquents et...
Le chef de secteur Popoy, Crispin Gboto, remercie la société Libella car selon lui, elle est la première à faire bénéficier les chefs traditionnels de cette entité de leurs droits miniers.
Ça fait presque 25 ans d'exploitation minière à grande échelle que nous avons souffert sans que quelqu'un puisse nous aider.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Signe de bonne foi pour le respect de ce cahier des charges, la société Libella a remis 5 motos aux 4 chefs de groupement ainsi qu'aux chefs de secteur de Popoy pour faciliter leur mobilité. Autre nouvelle, les bus Transacadémia sont de nouveau visibles sur les artères de la capitale Kinshasa. Constat fait jeudi dans la matinée par nos reporters, cette reprise du trafic est la conséquence du paiement des arriérés de salaire qu'accusaient les conducteurs de cette entreprise publique. Les étudiants de la capitale saluent cette reprise. Cependant, ils lancent un message au ministère en charge des transports afin de trouver une solution définitive à cette série de grèves qui s'observe au sein de cet établissement public. Plotin et Ambing. Reportage.
Les étudiants venus de plusieurs coins de la capitale se sont présentés en mars ce lundi dans la matinée dans différents arrêts de bus. Un ouf de soulagement pour Sarah et Bourgeois rencontrés dans l'est de Kinshasa.
C'est vraiment une bonne chose. On avait vraiment du mal à trouver le transport sans Transacadémie.
En tant qu'étudiants, nous sommes tous serrés parce que ça nous aide avec le transport. Lorsque l'académie était en grève, on payait les 3 500 pour aller à l'université. Mais avec la reprise de Transacadémia, on a eu vraiment à économiser l'argent. On a recommencé notre activité comme il était déjà auparavant, 1000 francs, aller comme retour.
Malgré ces soulagements, ils ont exprimé le vœu de voir cette entreprise publique être dotée d'une administration efficace. Condition sine qua non pour mettre fin à ce genre de situation d'après eux.
Le message que je lance aux DG de Transacadémia, qu'ils sachent comment diriger l'entreprise publique. Parce que ça, cette entreprise, c'est pour nous les étudiants. Nous demandons vraiment une bonne gérance pour qu'il n'y ait plus de grèves.
Pour qu'on organise bien vraiment des paiements de... Comme ça, ça pourra éviter des grèves et tout ça, des perturbations de transport.
Ce vœu est aussi exprimé par les personnels de cette entreprise. Créée en 2023, Transacadémia a pour principale mission d'assurer les déplacements des étudiants, mais aussi des élèves dans la capitale.
Dans l'actualité aussi, plusieurs jeunes venus des 4 coins du pays ont été outillés jeudi sur la lutte contre le discours de haine. C'était à travers un forum sur la cohésion nationale organisé à Kinshasa par la Coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC avec l'appui de la MONUSCO. Objectif, renforcer la cohésion nationale dans ce contexte de crise. Gloria Lutula et Plotin Yambenga nous en donnent les détails dans ce reportage.
Trois intervenants se sont succédés à l'estrade devant une grande assemblée constituée de jeunes pour leur dispenser des enseignements de nature à consolider en eux l'envie de vivre ensemble, gage pour une paix durable. Dans son intervention, le professeur Mabaka s'est appuyé sur les dispositions légales en vigueur, soulignant la nécessité de changer la constitution.
Dans cette nouvelle constitution, on doit poursuivre la discrimination. Et ça doit être mis clairement là-dedans. Donc, au Congo, il y a des points qu'on doit mettre dans la constitution pour imposer aux législateurs de ne pas adopter n'importe quel type de loi.
Pour sa part, Céleste Missingi, notable de la province du Nord Kivu, salue cette initiative prise par la Coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC.
Je remercie beaucoup la MONUSCO pour avoir mis ensemble la jeunesse de toutes les quatre zones linguistiques de la République démocratique du Congo.
Quelques participants se disent heureux des connaissances acquises.
Ma participation, ce serait de rajouter plus de connaissances, mais aussi de pouvoir appliquer les résolutions qu'on a eues aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait construire un Congo meilleur, une bonne gestion de ce qu'on a.
En nous l'esprit de patriotisme.
Les jeunes présents se sont engagés à apporter leur contribution dans la lutte contre les discours de haine et la désinformation dans leurs milieux respectifs.
Actualité internationale.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed exclut toute possibilité de guerre avec l'Érythrée malgré une montée des tensions entre les deux pays. L'enjeu principal, l'accès maritime de l'Éthiopie et le contrôle du stratégique port d'Assab. Pays enclavé depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie cherche activement un débouché maritime. Abiy Ahmed réaffirme que cette quête se fera de manière pacifique et diplomatique.
L'invité.
Le chef de l'État enjoint plusieurs ministres, notamment ceux du plan, de la justice, des finances, de l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises, du commerce extérieur et la ministre de la jeunesse d'engager une réflexion approfondie afin de mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. C'était lors du dernier conseil des ministres. L'état des lieux du secteur d'investissement et création d'entreprises, nous en parlons avec notre invité Eddy Mouela, analyste économique. Il est avec Billy Vandoutumba.
Monsieur Eddy Mouela, bonjour.
Bonjour, monsieur Billy Lutumba.
Le chef de l'État, dans sa récente réunion du Conseil des ministres, enjoint les membres de son gouvernement de déblayer le parcours des entrepreneurs et investisseurs des embûches pour favoriser le développement économique et attirer les investissements au pays. Quelles sont souvent ces embûches que rencontrent souvent les investisseurs ou entrepreneurs dans notre pays?
Je dois le reconnaître, effectivement, les entrepreneurs, les investisseurs dans notre pays rencontrent des difficultés. Nous avons des difficultés qui sont relatives à la complexité administrative, ce que nous pouvons appeler lourdeur administrative. Nous avons des difficultés ou des embûches liées à la fiscalité complexe et des fois pas toujours très transparente. Nous avons des embûches qui sont liées au risque opérationnel élevé. Notre pays a quand même un niveau, un profil risque assez élevé, même si des efforts sont en train d'être fournis pour ramener les choses dans une proportion positive acceptable. Le risque opérationnel est quand même élevé. Nous avons des embûches qui sont liées à un accès limité au financement. Vous serez d'accord avec moi qu'une entreprise, un investisseur qui déploie ses activités, il aimerait quand même que ses activités puissent s'étendre, se développer. Et lorsque l'insécurité survient, ça ne peut constituer qu'une embûche de taille qui peut retarder le plan de développement et si pas pousser une entité à la faillite. Donc, ces embûches, pris globalement, constituent en fait un goulot d'étranglement qui demande à ce que les différents ministères, les différents services puissent réfléchir et arriver à déblayer les choses pour que nos investisseurs, nos entrepreneurs puissent regarder et aller dans une bonne direction.
De quelle manière ces pesanteurs se font-elles sentir sur le terrain?
La difficulté vient aussi du fait que nos différents services censés accompagner les entrepreneurs et les investisseurs ne sont toujours pas intégrés. Et qu'est-ce que j'entends par intégration? C'est tout simplement cette interconnexion qui est relative au déploiement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui pourrait permettre aux différentes entités censées accompagner les investisseurs et les entrepreneurs de voir, par exemple, comment évolue un dossier, chacun sait qui le concerne, s'il doit émettre un avis ou un avis technique ou une note de synthèse. Il faudrait que les différents services puissent être interconnectés au travers d'une dynamique de déploiement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour justement faciliter à ce que les dossiers des différents investisseurs puissent être traités avec sévérité. Vous avez aussi la question d'infrastructure. Par exemple, le déficit énergétique. C'est un élément détail qui peut plomber une dynamique d'implantation, d'investisseurs, d'entrepreneurs. Ça pose problème.
Les services ou structures qui doivent accompagner les investisseurs et entrepreneurs vantent les efforts qui sont en cours en termes de faciliter la procédure afin qu'elle soit plus aisée. Êtes-vous aussi de cet avis?
Au niveau des efforts déjà fournis, nous saluons déjà en son temps la création du guichet unique. Ce fut une mesure salutaire dans la mesure où, excusez-moi la tautologie, cela a permis de réduire sensiblement le temps ainsi que le coût se rapportant à la création d'une entreprise. Et cela aide énormément les investisseurs, les entrepreneurs à avancer dans cette direction. Ça, ce sont des mesures qu'il faut fortement encourager. Mais est-ce que cela suffit pour dormir sur ses lauriers? Nous disons non. Et nous saluons en parallèle les efforts qui ont été fournis pour créer l'ANADEC, le FOGEC, pour pousser un peu plus l'ANAPI à être innovant, à être un peu plus regardant au niveau d'attirer les investisseurs dans les pays. Nous saluons tous ces efforts et nous disons que ce sont des choses qui peuvent booster l'entrepreneuriat, qui peuvent booster les investisseurs dans notre pays. Et nous encourageons les choses pour que les différents responsables, et nous le martelons, le président de la République a raison de le marteler aussi, que les différents responsables puissent prendre le problème à bras le corps pour qu'ils créent les conditions d'élaguer les goulots d'étranglement en termes d'infrastructures de base, en termes de fiscalité qui peut bloquer les investisseurs, de lutter contre la corruption, la concussion. Voilà autant d'efforts sur lesquels nos responsables doivent mettre la main, doivent mettre le doigt pour que finalement les choses puissent aller dans la bonne direction.
Monsieur Dimoula, merci.
Merci.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.